Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes deux enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis, je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour, l'épisode que tu vas écouter aujourd'hui est un peu différent des précédents. Pour la première fois, je ne donne pas la parole à un papa sur son vécu, mais à une professionnelle. Nous allons aborder ensemble un sujet presque tabou, celui de la sexualité après la naissance d'un bébé. On le sait aujourd'hui, près d'un couple sur deux envisage une séparation dans la première année après l'arrivée d'un enfant. Même quand on pense avoir une sexualité épanouie, le postpartum peut être un moment profondément perturbant. Et si j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce que personnellement, j'ai été moi-même chamboulée. Pour mon premier enfant, j'ai beaucoup culpabilisé autour de la reprise de la sexualité. Mon bébé était né par césarienne et dans ma tête, je me disais que ce n'était pas normal d'attendre longtemps, d'avoir des craintes et même des douleurs. Après le premier mois, je culpabilisais déjà d'avoir encore besoin d'attendre. Jusqu'au jour où j'en ai enfin parlé avec mon mari, et là, j'ai découvert que lui non plus n'avait pas de libido, que lui aussi était tout chamboulé, et que ce silence, en fait, nous pesait à tous les deux. Et, en fait, si on avait osé en parler plus tôt, ça nous aurait fait un bien fou. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu enregistrer cet épisode. Dans cette interview, on va parler de sexualité en postpartum autrement, avec Roxane, la créatrice de Maternité Sauvage. Pour montrer comment devenir parent peut parfois être le point de départ d'une sexualité encore plus consciente, plus connectée, plus profonde, si on s'en donne la possibilité. Je te souhaite une très belle écoute. Déjà, je voulais vraiment te remercier parce que ça me fait trop plaisir. Je suis même un peu stressée de t'avoir là avec moi parce que ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux et que je vois ton travail et que ça me donne envie de... D'ailleurs, j'aimerais bien trop participer à une de tes retraites, mais bon, c'est pas encore le moment. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir. Je suis trop contente d'être là. On a galéré à trouver l'espace, mais ça s'est fait.
Ouais, c'est ça. C'est souvent compliqué quand on a des enfants et qu'on est entrepreneuse. C'est pas forcément évident. Je compatis. Donc pour commencer, est-ce que ça te dit de te présenter rapidement et surtout d'expliquer un petit peu ton cheminement, pourquoi tu as décidé d'accompagner des femmes et peut-être des couples aussi sur le sujet de la sexualité?
Est-ce que je vais réussir à résumer? Parce que, ouais, je vais essayer d'aller le plus droit au but possible. Mais donc, à la base, absolument rien à voir avec ce que j'ai étudié, avec le parcours dans lequel je m'étais engagée après ma scolarité, où j'avais décidé de suivre la voie familiale de l'aviation et de devenir pilote de ligne, comme ma maman avant moi et mon grand-père maternel. Et pour moi, c'était tout tracé. Je pensais que j'allais faire ça vraiment pour toujours, que j'adorerais mon job et que j'allais faire comme ma maman, c'est-à-dire avoir des enfants et être pilote et continuer comme ça. Et puis, ma première fille est née et ça a vraiment... C'était un tsunami. C'est venu tout changer en moi. Et sa naissance a été assez assez traumatique. Et donc, c'est là où j'ai décidé de me former en tant que doula. À la base, ça a été ça le début. Ça partait d'un espace de vouloir changer les choses pour moi, pour la suite pour moi, et de vouloir comprendre aussi pourquoi j'avais vécu ça et ce qui s'était passé. Et aussi d'un espace, d'un grand espace de sauveur, sur le fameux triangle. Je me suis dit, je vais aller sauver les autres femmes, quoi. Je vais faire en sorte qu'elles ne vivent pas ce genre d'expérience. Et puis, de fil en aiguille, je me suis formée dans plein de choses, j'ai appris plein de choses. Et quand je découvre un sujet, moi, j'ai besoin de l'explorer à fond, quoi. J'ai besoin de lire tous les livres, d'écouter tous les podcasts, de me former, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant tout un moment sur la naissance. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le concept de naissance libre. Donc, ces femmes qui choisissent de... alors, il y en a qui ont quand même un accompagnement médical pour leur grossesse, mais en tout cas, ce sont des femmes qui choisissent de donner naissance chez elles, sans assistance médicale, vraiment dans leur plein pouvoir. Et au même moment où j'ai découvert ça, j'ai réalisé que je pouvais pas non plus accoucher moi-même de manière naturelle comme je le voulais, parce que j'avais eu une césarienne, et que donc en maison de naissance, avec une sage-femme à domicile, en gîte intra-hospitalier, c'était les mêmes règles partout, c'est qu'on ne peut pas avoir eu une naissance par césarienne avant. Il y a une sage-femme qui m'a dit, une fois que tu auras eu une naissance par voie basse, alors on pourra faire une naissance à domicile. Je disais, mais donc quoi, je suis obligée d'aller à l'hôpital pour avoir cette naissance par voie basse, espérer avoir ça. Enfin bref, ça a été tout un cheminement. Et donc quand j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui choisissaient de faire ça chez elles, voilà, sans assistance médicale, je me suis dit, c'est ça qu'on fait. J'ai partagé ça avec mon mari qui m'a d'abord dit non, on va pas faire ça. Et pour moi, c'était très clair, je voulais plus jamais revivre ce que j'avais vécu la première fois. Je lui ai dit, alors on n'aura pas d'autres enfants. Bref, donc ça a été vraiment le début du cheminement. Et ma deuxième fille est née dans notre salon. Il y avait juste une amie à moi, doula, enfin birth keeper, quoi, une gardienne de naissance. Mon mari, ma fille aînée qui dormait. Et ça a été vraiment ouais, une révélation. Ça n'a pas été la naissance orgasmique dont je rêvais. Je pensais que j'avais vraiment manifesté une naissance sans douleur, dans le plaisir. Ça a été super intense. Mais ça a été tellement puissant. Et c'est suite à cette naissance que j'ai senti que ça avait rallumé quelque chose en moi. Voilà, je pense que le fait d'avoir, après avoir eu cette césarienne qui m'avait vraiment coupée de mon bas-ventre, de ma sexualité, le fait d'avoir eu cette naissance-là, ça a vraiment rallumé quelque chose. Et pendant ma grossesse, j'avais commencé à me former avec une Américaine. J'avais commencé à découvrir plein de nouvelles choses sur la sexualité. Et puis, la grossesse était arrivée et j'avais plus eu le temps. Et là, mon mari est resté avec nous 6 mois après la naissance. Il avait pris un congé parental de 6 mois. Et quand il est retourné bosser, je lui ai donné ce livre que j'avais depuis le tout début de notre relation, qui est un livre de Mantak Shia. Mantak Shia, c'est un maître taoïste. C'est celui qui a introduit tous ces concepts de sexualité sacrée et de ce qu'ils appellent healing love, l'amour curatif chez les taoïstes. Lui a commencé à introduire ça, je pense, il y a 20-30 ans aux States, et puis c'est venu chez nous. Et j'avais trouvé ce livre dans la bibliothèque de ma maman il y a plus de 10 ans. J'avais commencé à lire, j'en avais parlé à mon mari, et il avait été absolument pas réceptif. C'était encore un gros tabou pour lui à l'époque. Et donc, ce livre était resté sur ma table de nuit pendant des mois, pour finalement être relégué dans la bibliothèque. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi ? Parce que lui, il est toujours pilote de ligne, on s'est rencontrés comme ça. Je lui ai dit, toi, t'as le temps en escale de lire des livres. Donc, tiens, je te donne ce livre, parce que moi, je me retrouvais donc quand même pendant plusieurs jours seule à la maison avec ma fille de un peu plus de 3 ans et mon bébé de 6 mois. Je lui dis, moi, je vais pas lire des livres et tester des nouvelles pratiques de respiration, etc. en lien avec la sexualité, mais toi, t'as le temps. Et donc, je lui ai passé ce livre et il l'a lu. Et c'est là où vraiment il y a eu un énorme shift. Ça a changé plein de choses pour lui. Du coup, lui s'est mis à se former et à se renseigner, à lire plein d'autres livres. Et là, ouais, les changements qu'on a eu nous dans notre couple, dans notre sexualité, je me suis dit, c'est pas possible que j'ai passé tout ce temps sans savoir ça. Alors, je suis pas très vieille, hein. J'avais, quel âge j'avais à l'époque? Ça fait 2-3 ans. Donc, j'avais 31 ans. Je me suis dit, waouh, comment c'est possible d'avoir passé si longtemps sans savoir ça? Est-ce que les autres gens savent ça? Et donc, j'ai commencé à en parler à toutes les femmes autour de moi, parce que je suis quand même passée du milieu de l'aviation où il y a 5% de femmes, où j'étais globalement qu'avec des hommes tout le temps, au milieu des cercles de femmes et de la naissance, etc., où il y a globalement que des femmes. Et donc, j'ai commencé à parler de ce sujet, de la sexualité, que j'avais découvert qu'il y avait différents types d'orgasmes que l'orgasme clitoridien. Enfin, j'ai vraiment commencé à en parler. Et là, j'ai récupéré des centaines de différents témoignages. D'un côté, il y avait les femmes qui disaient un peu en secret, ah, mais moi, j'ai un truc très spécial. Moi, je suis une femme fontaine. Je connais des orgasmes différents depuis toujours. C'était des femmes que je connaissais depuis des années. J'étais là, waouh, je savais pas. Donc, ça, c'était un côté du spectre. Et l'autre côté, c'était des femmes qui disaient, ben, moi, en fait, j'ai jamais eu d'orgasme. Et la sexualité, je me suis toujours demandé pourquoi les gens faisaient ça. Je l'ai fait pour avoir des enfants, mais je trouve ça nul. Je me suis dit, comment c'est possible qu'un truc qui touche littéralement tout le monde, hein, chaque adulte, voilà, à partir du moment où on commence à avoir les hormones qui travaillent et où on rentre là-dedans, ben, pour le reste de notre vie, c'est un sujet, mais que ce soit encore si tabou, qu'il y a encore tellement de choses pas connues. Et donc, à l'époque, j'ai proposé un cercle de femmes que j'avais appelé Femmes Orgasmiques. C'est le nom de mon programme aujourd'hui, mais ça a commencé par être juste un cercle. Et j'en ai parlé sur Instagram et il était rempli en une heure. J'avais jamais eu ça. D'habitude, je remplissais mes cercles sans trop de difficultés, en quelques jours, en quelques semaines, en parlant régulièrement. Et donc là, j'ai eu plein de femmes qui me disaient « Il n'y a plus moyen de s'inscrire, ça remplit, comment on fait ?» Donc j'ai lancé une deuxième date, puis une troisième date, puis une quatrième date, puis une cinquième date. Je crois qu'au total, j'en ai fait six qui se sont tous remplis comme ça. Et c'était génial de partager toutes ces nouvelles choses que j'avais découvertes, de proposer aussi un espace pour les femmes pour ouvrir la parole. Mais c'était aussi super frustrant parce qu'un cercle de 4 heures, on peut clairement pas aborder le sujet comme j'avais envie de le faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé mon premier programme qui s'appelle donc aussi Femmes Orgasmiques et que j'ai réalisé à quel point c'était transformateur et à quel point... Bon, et c'est un peu comme c'est là que j'aime bien les parallèles, c'est un peu comme la naissance. C'est que la naissance et en même temps, c'est tellement plus et ça vient toucher à tellement de choses dans nos vies. Donc voilà, je trouve que c'est pour ça que ce sujet m'anime tellement, c'est parce que je trouve ça complètement transformateur et en étant maman de deux filles, mais ce sera pareil si un jour j'ai un ou plusieurs garçons, j'ai tellement envie de pouvoir leur transmettre autre chose, j'ai tellement envie que eux ils aient accès à ça dès le départ et qu'ils aient pas toutes ces couches de honte voilà. Donc c'est quelque chose qui m'anime vraiment très très fort. J'ai essayé de résumer.
Merci. Et voilà, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est justement parce que je pense que le postpartum est une opportunité pour redécouvrir la sexualité autrement. Pas que pour les femmes. Pour les femmes, il y a toujours un questionnement parce qu'on redécouvre notre corps, mais aussi pour les hommes, pour les partenaires. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que vraiment, je trouve que c'est un énorme sujet. Et on n'en parle pas assez. Donc tu l'as vécu. À ton avis, qu'est-ce qui change? Donc ça, c'est pour les partenaires, pour qu'ils puissent mieux comprendre. Qu'est-ce qui change dans l'énergie d'une femme et dans le corps d'une femme après avoir enfanté et souvent après un accouchement traumatique ou une césarienne? Parce que ce que tu as vécu et ce que moi aussi j'ai pu vivre pour mon deuxième accouchement, c'est pas la norme. La norme, c'est les accouchements médicalisés où on ressort quand même assez déconnecté de notre corps. Donc qu'est-ce qu'à ton avis change au niveau de l'énergie et au niveau du rapport au corps?
Je pense que pour beaucoup de femmes, ça les déconnecte complètement de leur corps. Ça fait, en tout cas, moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment une déconnexion, aussi un manque de confiance en mon corps. Et ça se traduisait par clairement un manque de libido, d'énergie sexuelle. C'est comme si mon énergie sexuelle avait été, il y avait eu un bouton et on l'avait coupé, quoi. Après mon accouchement traumatique. Et ce que je remarque aussi, c'est que dans beaucoup de couples, il y a peu de communication à ce sujet. C'est un sujet qui est difficile à aborder. Et là où ça pouvait marcher, avant d'avoir des enfants, on va dire ce manque de communication, on pouvait quand même se retrouver à quand même faire l'amour et à quand même avoir une certaine intimité. Si on n'arrive pas à ouvrir la communication après un accouchement, alors là, ça peut vraiment faire effet boule de neige et ça peut durer des mois. Et moi, nous, c'est ça qu'on a eu après la naissance de ma première. Alors, l'avantage, je mets des guillemets, c'est que ça a été une expérience tellement intense que pour mon mari aussi, ça avait coupé. Il n'y avait aucune culpabilisation de sa part, aucun... On avait tous les deux zéro désir. Donc, la limite, c'était plus facile. Parce que ce que j'entends beaucoup de la part des femmes, c'est qu'elles, le désir n'est plus là, mais leur partenaire, ben, c'est encore là. Et donc ça, c'est vachement plus difficile à gérer. Et si on n'a pas de moyen d'ouvrir la communication et de dire, bon, ben, ok, allons-y, en fait, parlons-en, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour, et maintenant quoi? Parce que c'est ça le problème, souvent, c'est que au plus le temps passe, au plus le problème prend de l'ampleur, au plus on ressent de la honte, et on n'ose pas en parler, et donc vraiment, enfin, et je me souviens qu'à l'époque où, donc moi j'ai grandi dans c'est ma maman qui m'a élevée, une maman très 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 ouverte à ce sujet, donc ça n'a jamais été un tabou. Alors parfois, elle était trop ouverte, elle nous partageait trop de trucs de sa vie à elle, mais voilà. C'est le seul petit truc que moi je veux pas faire. J'ai envie d'être super ouverte sur le sujet, mais toujours de garder cette barrière là, que mes enfants n'ont pas besoin de savoir ce que leurs parents font au lit. Mais bref, tout ça pour dire que ma maman, quand elle était pilote, qu'elle était commandant de bord, elle volait avec des copilotes qui ont notre âge, hein, entre 30 et 40 ans, et souvent, bah, quand on se retrouve dans un avion pendant des heures, on peut avoir tendance à faire un peu des confessions. On a rien d'autre à faire. Voilà, on vérifie que tout se passe bien, mais on peut aussi beaucoup parler. Et ma maman, je pense, avec la posture qu'elle avait de femme de 60 ans, qui aurait pu être leur mère, mais en même temps qui n'était pas leur mère, elle avait beaucoup de copilotes masculins qui se confiaient et qui disaient « ça fait 6 mois que j'ai pas fait l'amour avec ma femme, ça fait 2 ans que j'ai pas fait l'amour avec ma femme », et qui partageaient ces trucs-là. Et je me souviens qu'elle venait me dire ça, et moi, à l'époque, je me disais « mais comment c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là ? » Et aujourd'hui, je vois très bien comment c'est possible. Avec mon mari, on n'en est pas arrivé à ce stade-là, mais on a quand même eu des périodes où pendant plusieurs mois, il se passait rien, et donc, ça devenait un tellement gros sujet qu'on n'osait pas l'aborder, et alors, on a l'impression d'être de nouveau des ados, qui n'ont jamais fait ça. Enfin, y a vraiment un truc qui se passe à ce niveau-là, et donc, je pense que c'est ça le gros truc après une naissance, c'est que, souvent, les femmes, elles n'ont pas envie de refaire l'amour tout de suite, parce que y a tellement de facteurs, c'est tellement multifactoriel. On passe quand même, surtout pour un premier, on passe d'avoir énormément de temps pour soi, énormément d'espace, à avoir un bébé. Et genre, ça prend toute la place, quoi. Et si on allait être notre bébé, on donne déjà tellement, et on est aussi tellement rempli de ce toucher qu'on a avec notre bébé, aussi bien avec l'allaitement, qu'avec le portage, qu'avoir notre bébé sur nous, que, entre guillemets, on se rend pas toujours compte qu'on a besoin aussi de reconnecter avec notre partenaire. Beaucoup de femmes n'en ont pas envie. Elles se sentent déjà complètes comme ça, c'est bon. Elles ont tout ce qu'il faut. Et c'est là où alors qu'en fait, c'est génial quand on reconnecte avec son partenaire. Ça change tout l'expérience de parentalité. Mais c'est là où ça peut aussi être un changement pour les hommes de réaliser que, le sexe qu'on nous a vendu et qui malheureusement, en fait, c'est le sexe porno, quoi. Et c'est ça qui est dommage, c'est que la plupart des hommes, aujourd'hui, ils ont été élevés au porno, et donc pour eux, le sexe, ça doit être du sexe pénétratif avec une éjaculation à la fin. Et donc si on n'a pas déconstruit ça, c'est souvent ça dont les femmes n'ont pas envie en postpartum, et d'ailleurs c'est souvent ça qui leur donne le moins de plaisir. C'est là où on se retrouve un peu dans un espèce d'entre-deux où on sait plus très bien quoi faire. Et donc c'est pour ça que, comme tu dis, que c'est un sujet tellement important, et d'en avoir discuté en amont, et d'avoir découvert aussi plein d'autres pratiques, d'avoir découvert que ça peut être, c'est 1 million de fois mieux, il n'y a pas de chiffre, quand on a découvert que ça pouvait être lent, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir le climax à la fin, que c'est tellement plus puissant que ça, ce qu'on peut découvrir en couple. Et je suis super curieuse parce que du coup, mon deuxième postpartum, on avait commencé à découvrir ces choses-là, et j'ai senti que mon désir était revenu beaucoup, beaucoup plus vite. Enfin, il n'y avait même pas de comparaison versus la première fois avec ma césarienne. En plus, j'avais eu des complications. Mais ici, avec tout ce qu'on a découvert depuis, on a encore envie d'avoir d'autres enfants. Je suis hyper curieuse de à quoi ressemblera notre postpartum en couple. Enfin, à quoi ça ressemblera. Et je me souviens que j'avais une amie qui m'avait dit, il y a des années, avant que je devienne maman, qu'elle avait eu envie de faire l'amour avec son mari 6 jours après avoir accouché. Alors c'est évidemment l'inverse de ce que nous disent les médecins, mais ça, voilà, moi, ça, je vais écouter. qu'est-ce qu'un médecin peut me dire si je suis prête à faire l'amour ou pas? Mais donc, je m'étais dit que c'était quand même assez incroyable, c'était pas son premier. Et puis, quand j'ai eu du coup ma première naissance par voie basse, 6 jours après, j'avais pas du tout envie de sexe pénétratif, soyons honnêtes, parce que c'était quand même intense en termes de sensations. Mais je peux tout à fait imaginer qu'après une naissance, quand le passage a été fait et qu'après une naissance qui se passe peut-être plus rapidement, plus facilement, qu'en fait, on est retombé amoureuse de notre partenaire quand ça se passe bien et que c'est juste super puissant. Et donc maintenant, je peux imaginer ça. Je peux imaginer qu'une femme puisse avoir envie de de cette connexion avec son partenaire parce qu'elle vient de vivre un truc incroyable et qu'elle est retombée en amour avec lui.
Ben, je confirme. Après la naissance de mon deuxième à la maison, ouais. Ben, ma libido, déjà, elle n'est jamais partie, je crois. Et je pense qu'une semaine plus tard, c'était effectivement, je me sentais pas physiquement, je sentais que ça, que j'étais pas prête, mais tout le reste était prêt. Hein. Mmh. C'est une grande différence.
C'est clair.
Tu as parlé d'allaitement. Il y a cette idée reçue autour de l'allaitement que ça éloigne le partenaire, que c'est un peu le tue-sexe, on va dire. Mmh. Est-ce que ça, pour toi, c'est nécessairement ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres voies?
Non, pour moi, c'est évidemment complètement faux. j'ai même envie de remettre en question, enfin de questionner le fait que quand on allait, du coup, il y a la prolactine, ça fait une baisse de libido. Et ben, pour avoir allaité non-stop pendant 6 ans, parce que j'ai allaité pendant toute ma deuxième grossesse, puis j'ai co-allaité, donc j'ai allaité mes deux filles après pendant encore 2 ans. je pense que c'est vraiment une fois qu'on a rallumé la flamme, une fois qu'on est venu rallumer cette énergie sexuelle, le cycle menstruel n'a plus d'incidence. Aujourd'hui, je remarque pas, alors qu'à l'époque très très fort, mais je remarque pas de différence dans ma libido, que ce soit enfin par rapport au moment où j'ovule ou au moment juste avant mes règles. Enfin, il y a plus de flux. Enfin. Alors, est-ce qu'il y a peut-être encore une petite fluctuation? Peut-être, mais c'est plus comme avant, où avant, c'était quand j'ovule, j'ai envie, quand j'ovule pas, j'ai pas envie. C'était vraiment très, c'était très cyclique, mais vraiment un peu noir ou blanc, quoi. Et donc, je pense que par rapport à l'allaitement, c'est la même chose. Une fois qu'on est venu réveiller ça et qu'on garde la marmite frémissante, ça, c'est un des concepts du taoïsme, c'est que les femmes, elles sont comme l'eau. Elles mettent du temps à chauffer, mais une fois qu'elles sont chaudes, elles restent chaudes longtemps. Les hommes sont comme le feu. Ils s'allument très vite, mais ils s'éteignent aussi très vite. Et donc, l'idée du taoïsme, c'est vraiment... ils disent aux hommes qu'il faut faire bouillir notre marmite, nous, à nous de femmes. Et donc, faire en sorte... Et bon, c'est aussi notre responsabilité à nous, évidemment, de prendre soin de nous et d'avoir de l'espace pour avoir de l'espace pour cette énergie sexuelle, parce que c'est souvent ça aussi. En tant que femme, aujourd'hui, on est tellement dans le yang, on est tellement à faire des choses masculines, à être dans le faire, et la maternité en tant que telle est très yang. Ça paraît un peu bizarre, mais parce que s'occuper d'enfants, ben, ça demande beaucoup d'espace mental, ça demande beaucoup d'énergie, et donc on est souvent tellement dans le yang qu'on est presque trop rempli, il n'y a plus d'espace pour recevoir. Et la sexualité, c'est le yin et le yang, le masculin étant le yang, et nous, le yin, on est vraiment censé représenter le principe de la réceptivité. Mais si on est 10 fois trop rempli par notre job, alors en tant qu'entrepreneur, c'est clairement next level, toutes les choses qu'on a à faire, toutes nos to-do list, tout ce qu'il y a dans notre tête, il n'y a plus d'espace pour avoir envie et pour le sexe. Et donc, bah, les taoïstes, ils expliquent comment faire en sorte pour nous les femmes, de garder cette marmite frémissante. Et ça, j'adore ce concept, parce que ils disent que si on veut faire bouillir de l'eau, si on veut faire bouillir de l'eau dans une casserole, ça prend beaucoup plus longtemps de faire bouillir de l'eau froide que de faire bouillir de l'eau qui est déjà tiède. Et donc, l'idée, c'est d'être tout le temps dans cet espace en couple et soi-même, ou s'il y a moyen d'avoir un moment d'intimité, ça ne veut pas spécialement dire faire l'amour, on est prête, quoi. Et pour nous, par exemple, une petite pratique qui est vraiment venue remettre ça au centre, c'est le fait de s'embrasser, de se rouler des pelles, vraiment, de s'embrasser pour de vrai. Pas de faire des bisous de parents, des petits smacks, la coucou, limite on pourrait faire ça, enfin voilà, c'est le même bisou qu'on fait sur la joue de notre mère, quoi. Et qui, je trouve, souvent, dans les couples, au bout de quelques années, ben, c'est les bisous qu'on se fait. Et nous, le fait de recommencer à s'embrasser pour de vrai, comme on faisait au début, ça, c'est venu clairement rallumer la flamme. Et donc, ça fait qu'il y a tout le temps cette eau qui frémit chez moi et que ça change tout.
Je comprends. alors, une autre question qui est un peu... qui peut sembler un peu bizarre, mais qui est la question qui revient tout le temps, c'est combien de temps ça peut prendre l'envie, le retour de l'envie et le retour de la sexualité en postpartum.
Ouais, il n'y a pas de... Je comprends tellement que ce soit la question, mais il n'y a pas de réponse type. Après, moi, ce que j'aurais envie d'inviter à faire, c'est... Mais déjà, une fois que les hommes réalisent que donner du plaisir à leur femme, c'est un peu le Graal. Moi, ça a été ça, la réalisation pour mon mari, où à un moment, lui me donnait beaucoup plus souvent du plaisir que ce que moi, je lui en donnais, et où j'ai dit, mais il y a une inégalité. Et il m'a dit, mais non, maintenant, je suis à un stade où ça me fait tellement plaisir de voir que toi, ça te fait plaisir, que j'ai besoin de rien. Genre, ça me satisfait. Oui. Et donc, une fois qu'on est là-dedans, on peut se retrouver en postpartum à prendre son temps et à se dire, peut-être que pendant plusieurs mois, la femme n'aura pas envie de sexe pénétratif, mais que par contre, elle peut se faire masser par son partenaire, tout le reste du corps, qu'il peut découvrir le massage des seins, découvrir des pratiques hyper lente, hyper douce, à lui pratiquer, enfin, en gros, lui faire des cunnilingus sans que elle se sente obligée de faire quelque chose en retour. Juste, enfin, il y a moyen de venir tester tellement de choses, et c'est déjà du sexe. Je crois que, à partir du moment où on décorèle ce truc de faire l'amour, enfin, le sexe, ça doit être ce truc pénétratif, qui commence comme ça, qui termine comme ça. À partir du moment où on réalise que tous les moments qu'on peut avoir d'intimité, ça peut être même du toucher sensuel et non sexuel. On parlait d'allaitement, ça peut être souvent au début de l'allaitement, on a mal au dos parce qu'on est tout le temps comme ça. Ça peut être le partenaire qui vient faire un massage du haut du dos de sa femme pendant qu'elle allaite. On n'est pas sur un toucher sexuel, mais il peut faire un truc hyper doux et ça vient nourrir et c'est ça qui vient rallumer la flamme et qui donne envie après d'avoir une intimité sexuelle. Parce que le problème, c'est que il y a plein d'hommes qui on leur a pas appris, hein, et ils ont malheureusement appris dans le porno. Ça, c'est aussi un gros travail de déconditionnement et de sevrage, parce que moi, je suis une abolitionniste du porno. Je pense que le porno ruine la vie des couples et ruine vraiment la sexualité des hommes. Je pense que c'est responsable de plein de trucs. Enfin, je suis pas la seule à penser ça, hein, mais et que donc il faut que pour avoir une sexualité épanouie, il faut que les mecs arrêtent de regarder du porno. Les femmes aussi, mais les femmes sont quand même moins consommatrices. Pourquoi est-ce que je disais ça? Je perds le fil de mes pensées. Mais oui, une fois qu'ils arrivent à décorréler ce sexe comme ils pensent que ça doit être, eh bien, il y a moyen d'avoir plein de pratiques douces qui font du bien et qui donnent envie. J'allais dire quelque chose. Je suis désolée. J'en venais à quelque chose avec ça. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, combien de temps ça peut mettre? Il y a des choses qu'on peut déjà faire directement, quoi. Je peux m'imaginer maintenant, en postpartum, me faire masser par mon mari parce que j'ai le bas du dos endolori et... Enfin, voilà, naissance, c'est intense. Sans aucune attente, parce qu'on en a discuté, parce qu'on a ouvert la conversation, savoir qu'il me fait ce massage juste parce qu'il a envie de me faire plaisir, de me faire du bien et qu'il s'attend pas à ce que derrière... Je suis prête à faire l'amour, mais moi, je sais que pour moi, ça, c'est le plus grand turn-on. C'est ce qui me donne le plus envie. C'est ça que je voulais dire. J'en reviens à ça. C'est que beaucoup d'hommes ne savent pas comment donner du toucher qui ne soit pas sexuel. Donc, souvent, ils n'ont pas appris le toucher juste sensuel, les câlins, les massages, etc. Et donc, eh bien, quand eux, ils sentent le désir sexuel qui monte, ils vont venir vers leur femme avec un toucher directement sexuel. Et ça, c'est le plus gros no-go pour la plupart des femmes. J'en parlais récemment avec une copine qui disait que, enfin, quand elle en parle avec ses amis, il y a tellement d'hommes, pour venir montrer qu'ils ont envie, ils vont venir, genre, nous toucher la fesse, ou déjà toucher les seins, ou genre, c'est pas méchamment, mais que pour la plupart des femmes, ça c'est genre, non, c'est pas du tout ça qui me donne envie. Par contre, ouais, viens dans mon dos, commence à me masser les épaules, à me caresser les cheveux, enfin un toucher sensuel. Je pense que ça peut vraiment venir réveiller. Et si on a expérimenté ça avant ou qu'on se dit voilà, on teste plein de choses. Cette période de postpartum, ça va être un test et on va découvrir plein de nouvelles choses et ça va être comme c'est un renouveau pour notre famille parce qu'il y a un nouveau bébé. Ça va être un renouveau pour notre couple et ça va nous rapprocher plutôt que nous séparer parce qu'il y a des malentendus et des non-dits et un manque de communication.
Et du coup, si je reprends un peu le fil, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à parler d'apprendre à parler, à communiquer.
Ouais.
Donc, comment on fait?
c'est pas toujours facile. La pratique que j'ai trouvée la plus puissante, qui est inspirée de Imago, je sais pas si tu connais la thérapie Imago, qui est une thérapie relationnelle absolument incroyable. Je suis pas formée à Imago, mais c'est une pratique qui ressemble et qui m'a fait penser la première fois qu'on a testé ça avec mon mari. Ça m'a fait penser au concept des cercles de parole. Ce qu'on a fait, c'est que, on a mis un timer et on a chacun eu l'occasion de dire, alors évidemment, sans être dans le reproche, vraiment, là, ça ressemble un peu aussi à la communication non violente, d'être vraiment, alors, pas besoin de créer des phrases alambiquées. Moi, c'est un peu parfois le problème que j'ai avec la communication non violente, c'est que parfois je trouve que ça fait un peu manipulation. Mais voilà, de venir déposer nos besoins, donc de venir dire, donc pendant le temps imparti, ça peut être, nous, on avait fait 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, l'autre n'interrompt pas. On a mis un timer. Et, je vais venir dire que j'ai besoin, potentiellement, allez, voilà, j'ai besoin de plus de préliminaires que moi pour démarrer. Je peux pas démarrer tout de suite comme ça. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'un massage, j'ai besoin qu'on parle avant de faire l'amour, j'ai besoin qu'on ait un moment de connexion. Et donc, je vais venir dire tout ce dont j'ai besoin. Et puis ensuite, lui va répéter tout ce qu'il a entendu. Et puis, il va avoir l'occasion de faire la même chose. Alors, qui démarre, ça, c'est au choix. Mais donc, le partenaire va aussi avoir l'occasion de dire ce dont lui il a besoin et pouvoir déposer, et nous on va être témoins de ça. Moi j'ai remarqué que ça a ouvert, on a osé se dire des choses en faisant ce bête exercice, ça paraît quand même un peu presque simple et stupide, en faisant ce bête exercice on a osé se dire des choses qu'on n'avait jamais osé se dire. Genre lui par exemple m'a parlé du fait qu'il avait du mal à ne plus regarder de porno alors qu'il voulait plus en regarder, et qu'il avait encore des moments, enfin que c'était vraiment un vrai sevrage et que c'était très difficile pour lui. Moi j'ai osé lui dire que j'avais parfois des rêves érotiques avec un de nos meilleurs amis et que chaque fois c'était un truc qui me mettait hyper mal à l'aise. Je me réveillais le matin, je dis, alors t'as bien dormi et tout, ça va? Je suis là genre, quelle horreur, pourquoi j'ai aimé ce gars? J'avais encore ces images, donc j'ai pu oser lui dire ça. On a pu déposer des choses qui nous bloquaient et redémarrer de zéro et dire voilà, des choses qu'on aime bien dans ce que l'autre fait, mais aussi des choses qu'on aime moins, et comment est-ce qu'on peut être vraiment dans cet espace pour pouvoir avoir envie de faire l'amour.
Et comment on fait quand on est en décalage?
Donc, en décalage de libido, tu veux dire, par exemple.
Oui, c'est ça, oui.
Quand il y en a un qui a plus envie que l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les cas de figure, là, je vais parler du désir, parce que ça a aussi été un énorme waouh, un truc pour moi. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais ça change tout. On n'a pas tous le même désir. Notre désir ne fonctionne pas tous de la même manière. Et c'est là où c'est pas vraiment spécialement une question de libido. C'est que il y a deux types de désirs. Il y a le désir spontané et le désir réactif. J'ai les mots en anglais toujours qui me viennent, je crois que c'est réactif. Donc, le désir spontané, peut-être en France, hein, donc je vais dire 90%. Il y a 90% des hommes ont un désir spontané. C'est un désir qui démarre comme ça, quoi. Ils vont avoir, ils vont nous voir dans une tenue qu'ils trouvent jolie, ou voilà, il va y avoir un truc suggestif, quelque chose, quoi que ce soit, une chanson, n'importe, qui va leur donner envie, et ça y est, ils sont allumés. Donc ça, c'est 90% des hommes. L'autre type de désir, c'est un désir qui vient en réaction. Donc, les mots me viennent pas, excuse-moi. C'est mon problème avec l'anglais. C'est un désir qui va venir, donc, et ça, c'est celui-là que 90% des femmes ont. Il va venir parce que on se fait masser, ou parce que on lit un livre. Il y a des choses qui vont, voilà, un livre où il y a une chouette scène de sexe ou un truc comme ça. On a besoin de plus de combustible. Il y a besoin de plus. Ça démarre pas comme ça. Et le problème, c'est que les films, la littérature, le porno nous ont fait croire que le seul type de désir, c'était le spontané, que c'était ça la norme. Et donc toutes les femmes, parce que si c'est 90% des femmes qui ont l'autre type de désir, qui n'ont pas ce désir-là, elles se disent qu'elles ont un problème, parce qu'elles n'ont pas envie spontanément comme ça. Il y a besoin de créer l'espace pour. Elles vont avoir besoin d'un contexte favorable, de bougies, d'avoir mis de la lingerie, de s'être préparée. Il va y avoir ce côté d'avoir un date qui est prévu. Et là où ça se complique, c'est que les 10% d'hommes qui n'ont pas de désir spontané, souvent ils se sentent honteux, Parce que on leur a dit que les hommes, ça doit avoir un désir qui démarre comme ça. On leur a dit qu'ils étaient censés avoir un truc en feu et eux ont besoin de plus de temps. Et idem pour les 10% de femmes qui ont le désir spontané. Parce que elles ont souvent, c'est des femmes qui ont entendu qu'elles étaient des chaudasses. Enfin, elles ont entendu des trucs comme quoi c'était pas normal d'être comme ça. Que en tant que femme, on n'est pas censé avoir envie comme ça. Et alors, c'est souvent faussé au début d'une relation. Au début d'une relation, il y a une ébullition hormonale, enfin voilà, dans tous les sens. Et donc souvent, au début d'une relation, le désir est spontané chez les deux. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance à faire l'amour plusieurs fois par jour, à vraiment être dans un feu sexuel que quand même beaucoup de couples expérimentent au début. Et puis tout ça redescend. Et c'est là où on voit quel type de désir on a. Et c'est là où souvent il y en a un qui a un type de désir et l'autre qui a l'autre. Très souvent. C'est assez rare, mais tout existe, hein. Toutes les combinaisons existent, évidemment. Il y a certains couples où les deux ont un désir spontané et où du coup il n'y a jamais de problème de sexualité et ce ne sont pas les gens qui vont venir à mes programmes ou m'écouter. Et il y a ceux où les deux ont un désir très très bas, mais où a priori ça ne leur pose pas spécialement de problème, parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Mais quand il y a une dissonance, ben, je trouve que apprendre ça, ça permet déjà de comprendre que c'est pas l'autre qui ne nous désire pas quand on a un désir spontané et que l'autre pas, et ou à l'inverse que ce n'est pas l'autre qui est juste en rut et qui en veut trop. Et je pense que quand on a ça, déjà le savoir ça aide, pouvoir en discuter et ensuite pouvoir créer le contexte favorable. Si on sait qu'on a cette différence de désir, eh bien venir fixer des moments, vraiment avoir des moments pour ça. Et disons, le cas de figure le plus classique, un homme qui a un désir très spontané et une femme qui a besoin de plus de temps et de tout ce contexte, eh ben lui, il sait qu'elle a besoin qu'il ait fait couler un bain, qu'il ait mis des bougies, ou que, voilà, quand on a des enfants, évidemment, tout ça prend encore une autre tournure, parce que ben il faut trouver le temps pour ça. Mais ça peut être juste avoir un petit massage avant de faire l'amour, que le partenaire masculin dans ce cas-ci fasse un massage à sa femme, ou bien plus de préliminaires. Ça c'est un des moyens. Après voilà, il y a mille autres choses qui me viennent, mais je trouve que déjà cette connaissance là, elle déculpabilise. C'est genre OK, j'ai pas de problème. C'est pas moi qui ai un problème d'avoir envie de sexe tout le temps, c'est pas moi qui ai un problème d'avoir moins envie de sexe, ou en tout cas que ça mette plus de temps à venir. Et alors là, au plus on le fait, en plus on a envie. Et ça vaut pour les personnes qui ont un désir qui met plus de temps à démarrer. Au plus on le fait, au plus on est dedans. Et donc c'est un cercle vertueux quand on met ces moments et quand on recommence à faire plus l'amour.
Et du coup, est-ce que tu conseillerais les gens de fixer des moments dans leur agenda pour ça?
Oui.
Même si ça a l'air très pas du tout sexy.
Je sais. C'est pas du tout sexy. Alors, la première fois que j'ai dit ça à mon partenaire, que j'ai dit qu'on allait fixer des moments, parce que la plupart des gens attendent que ça se fasse naturellement. Mmh. Hein, mais surtout quand on a des enfants, on réalise quand même assez vite que ça se fait naturellement, ça veut dire que ça se fait très peu. Parce qu'il faut que toutes les conditions soient réunies, que les enfants dorment, que machin. Et donc, quand j'ai découvert, c'était avec la première femme avec qui je me suis formée sur ça, qu'elle recommandait de planifier des sex dates, je me suis dit, allez, on va tester. Et au début, mon mari était catégorique, il était là, non, moi, ça fonctionne pas comme ça. Lui a clairement un désir spontané, donc il était là, ben moi, ça vient comme ça. On peut pas planifier, quoi. Si tu me dis, là, on va faire l'amour à ce moment-là, non, merci. Mais je lui ai quand même proposé qu'on essaye. Et les premières fois, je raconte toujours cette histoire parce que c'était juste trop marrant. Les premières fois, on était comme deux gamins gênés, ça comme deux ados. On avait donc nos filles étaient gardées, toutes les conditions étaient réunies. On avait mis ça dans l'agenda, c'était prévu pour ça. Et on se retrouvait comme ça parce qu'on savait pas très bien comment démarrer. Je me souviens des toutes premières fois, moi je passais l'aspirateur dans la maison et lui faisait un autre truc tout aussi sexy. Et puis finalement, il nous est resté très peu de temps et donc on s'est disputé. Et donc, ben moi j'ai pleuré, j'avais plus du tout, évidemment. Enfin, j'avais déjà pas spécialement envie de faire l'amour à la base, mais là, après la dispute et après avoir pleuré, j'avais plus envie. Et puis il m'a dit, tu sais quoi, viens, comme ça on passe quand même un moment ensemble de connexion. Je vais te faire un massage et il y a aucune attente. Enfin, voilà, je n'attends absolument rien. Si t'as pas envie de faire l'amour, on s'en fiche. Et il m'a fait un massage. Et évidemment, j'ai eu envie de faire l'amour. Et c'était génial. Et donc ça a été une révélation où on était là. OK, pour se mettre dans le mood, quand on a ces moments planifiés et où clairement, au départ, le désir n'est pas spécialement là, on va littéralement passer d'avoir fait la cuisine, avoir fait un truc très terre à terre du quotidien à être là, OK, c'est le moment. Et bien, dans ces moments-là, on va créer le contexte. S'il y a le temps, on va mettre des bougies, de la musique et on va se faire un massage. Alors maintenant que ça fait un bout de temps et qu'on a complètement transformé notre dynamique, on a moins besoin de créer ces trucs parce que la marmite est allumée et qu'au plus on fait l'amour, au plus on a envie. Donc au fur et à mesure, il y a moins besoin de ça. Mais au départ, c'est ça qu'on a fait et ça a vraiment tout changé. Ça a fait que le fait d'avoir planifié des moments, ça a fait qu'on a eu envie à des moments où c'était pas planifié aussi. Ce n'était jamais le cas avant. Je me souviens très très bien la première fois que j'ai réalisé ça. On était allé à une soirée chez des amis, enfin un dîner quoi. Et d'habitude, quand on rentrait un peu tard, hein, là je sais pas, il devait être 23h, donc nos filles dormaient, elles s'étaient endormies dans la voiture, on les a transférées dans le lit, elles dormaient et tout. D'habitude, on allait juste se mettre au lit, genre je t'aime, mon amour, bonne nuit, je suis crevée quoi. Jamais, jamais avant, on aurait fait l'amour à cette heure-là, après avoir mangé, bu un peu chez des amis. Et puis la première fois du coup qu'on était dans toute cette dynamique et qu'on est rentré et qu'en fait on avait juste envie de ça. Je me suis dit, waouh, là, il y a eu un gros changement, quoi. Là, il y a eu quelque chose de différent. Et le moment n'était pas planifié, mais c'était parce qu'on avait eu ces moments planifiés avant que ça s'était venu rallumer le feu, que du coup, ça se répercute sur le reste.
Donc, c'est normal si c'est gênant au départ.
C'est normal.
Il faut juste insister.
C'est ça. Et j'ai envie de dire encore plus en postpartum. Moi, je me souviens, enfin voilà, si t'as donné, aussi bien avec une césarienne, où j'étais là, il y a cette cicatrice dans le bas de mon ventre, je sens pas trop, enfin je veux dire, j'ai plus de sensibilité à cet endroit-là, je fais pas trop confiance à mon corps, mon corps est complètement différent, et idem après avoir une naissance par voix basse, où là, littéralement, la plupart des femmes, ça on nous le dit pas assez, mais notre vulve, elle change. Elle change au fur et à mesure de la vie, comme notre visage, mais elle change aussi après chaque naissance. Et donc là, ça peut être encore plus gênant d'être là. Bon, ça ressemble à quoi? Quelles vont être les sensations? Qu'est-ce qui va se passer quand on va refaire l'amour? Et donc là, raison de plus d'avoir cette communication ouverte et de savoir que ça peut être gênant. Moi, j'ai plusieurs femmes qui m'ont dit que la première fois qu'elles ont refait l'amour après chacun de leurs bébés, c'était comme leur première fois, quoi. Qu'il y avait vraiment, c'était un truc, ok, on va redécouvrir ça, comment ça va être.
Oui.
Et la première fois, ça, j'ai adoré, et j'aime bien partager ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est un peu l'inverse de ce qu'on nous raconte. Mais la première fois qu'une femme m'a dit que ses orgasmes étaient beaucoup plus puissants et que sa sexualité était beaucoup plus pleasurable, lui donnait beaucoup plus de plaisir après avoir eu un bébé, j'étais là, ah, waouh, c'est génial. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté aussi. Et ça, je trouve qu'on nous le dit pas. Forcément, le discours ambiant, c'est quand même que, après avoir eu un enfant, c'est un peu distendu et on ne sent plus rien. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça que j'avais intériorisé et c'est pas du tout nécessairement le cas. Et alors, à l'inverse, il y a des femmes pour qui c'est très douloureux après, parce qu'elles ont eu des déchirures, des épisios, etc. Et là, pareil, là, c'est aussi super important de dire que il y a moyen de se débarrasser totalement de ces douleurs, mais que ce moyen-là n'est pas de se forcer à faire l'amour en serrant les dents et en pleurant. Parce que j'ai entendu des témoignages de femmes, encore aujourd'hui, ça me choque ce que leurs gynécos leur disent. Donc des femmes qui, de base, elles sont pas très connectées à leur corps et elles ont un partenaire qui est aussi qui a beaucoup d'attentes et qui n'est pas spécialement respectueux, mais et c'est pas pour critiquer les hommes, ces hommes-là, je crois qu'ils se rendent pas compte, c'est un peu ce qu'on leur a dit. Et donc au bout de 6 semaines, elles vont chez leur gynéco qui dit c'est bon, vous avez le go, vous pouvez refaire l'amour, qui rentre chez elle et en fait c'est absolument insoutenable tellement c'est douloureux, et qui pleure, et puis leur mec qui leur dit ah mais en fait le médecin a dit que c'était bon, donc normalement c'est bon, non? Et puis des femmes qui m'ont dit qu'après pour avoir vécu ça à l'époque, rien à voir avec l'accouchement, d'avoir été chez des gynécos pour des douleurs vaginales complètement intenses, enfin horribles, et que le gynéco me dise non, mais c'est dans votre tête, tout va bien, buvez un verre de vin, quoi. Buvez un verre de vin avant de faire l'amour. Donc, ça, c'est aussi absolument anormal, et il y a moyen de venir travailler sur le tissu cicatriciel. Enfin, on peut complètement guérir de ça, mais que si une femme, après avoir eu un enfant a des douleurs insoutenables quand elle fait l'amour, c'est pas normal, quoi. Et qu'elle n'est pas censée attendre que ça passe. Parce que ça, je trouve ça encore terrible qu'aujourd'hui, on nous dit ça, et souvent, ces femmes-là, elles ont honte, et donc elles n'en parlent pas. Et donc, pendant des mois, elles serrent les dents en se disant « Allez, j'ai hâte que ce soit fini. Enfin, » Quelle horreur. Donc, je crois que c'est vraiment important d'ouvrir le sujet, enfin, d'ouvrir la parole sur ce sujet.
Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pas normal d'avoir de mal quand on fait l'amour. C'est pas normal, non. Même après un bébé. Ouais. Et si on a mal, il faut consulter quelqu'un qui écoute la douleur, qui est capable Exactement. De la reconnaître. Ouais. Exactement. Je l'ai vécu aussi, et même pour ma césarienne, tu vois. Je trouve que j'ai eu plus de mal après une césarienne qu'après un accouchement par voie basse. Et j'en ai encore, hein. J'ai eu des adhérences qui font que j'ai des tensions sur le périnée, et voilà, maintenant je sais, mais il m'a fallu 4 ans pour que quelqu'un reconnaisse que j'avais raison, alors que je le ressentais dans mon corps.
Ouais. Ah, mais, y a tellement besoin de sensibiliser les, parce qu'il y a quand même énormément de césariennes aujourd'hui. Mmh. Et moi, j'ai été choquée quand, après ma césarienne, on m'a dit, voilà, il faut masser la cicatrice comme ça, un petit palpé roulé, blablabla. Et quand j'ai appris quelques années après que c'était absolument pas nécessaire, que la césarienne, c'est l'opération qui crée le plus de tissu cicatriciel, parce qu'on est coupé sur 7 couches, moi j'en ai pleuré, quoi. La première fois que j'ai appris ça et que j'ai vu à quoi ça ressemblait à l'intérieur par des images, etc. Et on est en train de parler, on n'est pas en train de parler de tissu cicatriciel dans notre bras, on est en train de parler de tissu cicatriciel dans notre matrice, notre base. Ça vient toucher tout le tissu sexuel, ça vient aussi toucher notre midline, notre centre, donc ça peut créer des douleurs au dos, donc c'est hyper important de venir travailler toutes les cicatrices, que ce soit une césarienne, que ce soit une épisio, que ce soit une grosse déchirure. Il y a des pratiques, en anglais ça s'appelle scar work, littéralement le travail des cicatrices, c'est hyper doux, ça fait pas du tout mal. Il y a aussi la fasciathérapie, enfin il y a plein de thérapeutes aujourd'hui même qui travaillent, moi il y en a une ici en Belgique que je recommande à tout le monde, elle travaille en intravaginal, tout doucement, et ça fait des miracles, ce genre de toucher. Mais malheureusement, la médecine classique, ils sont pas au courant, ou ils s'en foutent, je ne sais pas. Mais on ne dit pas ça aux femmes, quoi. Et comme tu dis, ouais, avoir cette cicatrice de césarienne, c'est pas du tout anodin.
Oui, et après, on a honte, on pense que c'est dans notre tête, que c'est nous qui avons un problème, et c'est infini, en fait. C'est hyper dur à vivre.
Oui, je pense que ça peut gâcher la vie, quoi.
Oui, oui. Et la vie et le couple, parce Exactement, qu'on n'arrive plus à se comprendre, en fait. Ouais.
C'est ça.
Tout à l'heure, tu as parlé d'allaitement, il y a aussi le sujet de cododo. Comment on fait quand on fait du cododo?
Ok, oui, c'est hyper, hyper intéressant. Je vais juste revenir sur ce truc d'allaitement, parce que je réalise que je n'ai pas répondu à toute ta question. Pour moi, l'allaitement ne sépare tellement pas, enfin, n'évince tellement pas le papa. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment le truc le plus stupide, qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça. Et nous, ce qui a fait qu'on a tous trouvé notre place, c'est clairement le portage, quoi. Mon mari, il a porté nos enfants, mais des heures et des heures et des heures. Et je pense que, alors évidemment, on ne peut jamais comparer, mais que ce que moi, je retrouve avec l'allaitement, parce que quand on allaite, on le sait maintenant, ça sécrète énormément d'hormones, de l'ocytocine, enfin, on se sent littéralement, on peut même se sentir high. D'ailleurs, souvent au début, je trouve qu'en tant que maman qui allaite, notre bébé, il a l'air d'avoir pris de la drogue. Il y a des dérivés cannabinoïdes, hein. Il y a des dérivés de cannabis dans le lait maternel. naturel, c'est génial. Donc, quand je vois un bébé comme ça, qui s'endort avec les yeux qui roulent en arrière, genre vraiment, on dirait que c'était le meilleur truc du monde. C'est ça, il a pris son petit joint de lait. Et du coup, le portage, ça sécrète aussi plein d'hormones. Et mon mari, je nous vois encore avec notre première, quand il a commencé à la porter en écharpe, où il me disait, c'est incroyable, quand je la porte, je l'aime encore plus. Et donc pour moi, enfin, les pères ont tellement leur place avec ça, avec alors nous pour notre deuxième, on a fait l'hygiène naturelle infantile, ça c'est le fait d'être à l'écoute des besoins d'élimination de nos bébés, ça aussi ça a été une place incroyable pour mon partenaire. Donc enfin nous en tout cas, et c'est ce que je vois autour de moi, ça n'a jamais été un truc où l'allaitement l'empêchait d'avoir sa place ou le séparait de moi. Alors lui en plus, il aime bien les gros seins, et quand j'allaite, j'ai des gros seins, donc il est juste là, tu peux allaiter pour toujours. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'allaiter pour toujours, ça va, j'ai... Déjà là, les 6 ans non-stop d'allaitement avec co-allaitement, c'était bien, c'était une belle expérience, mais je suis contente d'avoir un petit break avant ma prochaine grossesse. Mais donc, le cododo, oui, vaste sujet. Ça, c'est fou. C'est le premier truc où les gens se permettent de commenter. Je me souviens encore très, très bien, mon papa, avec qui je n'ai jamais parlé de sexualité, qui a appris, quand je sais plus, notre première avait, je sais pas moi, un an, qu'elle dormait encore avec nous, et qui m'a dit, mais enfin, ça, c'est vraiment très mauvais pour la sexualité. Et je me suis vraiment dit, ça, c'est marrant que tout à coup, tu t'intéresses, tu te permettes de faire une remarque sur ma sexualité. Et j'ai trouvé ça très ironique parce qu'à ce moment-là, on commençait à récupérer une sexualité géniale alors que on était en cododo. Ah, je vais expliquer comment ça fonctionne pour nous après. Je me souviens que je lui avais dit, tu sais, quand on était addict à Netflix il y a quelques années, on n'avait pas d'enfant, on regardait des séries et des séries et des séries, mais pendant parfois des heures de suite, on avait zéro sexualité parce qu'en fait, on était complètement avachés dans le canapé tout le temps. La personne ne s'interroge sur la sexualité quand on est addict comme ça à la télé. Mais par contre, tu mets ton enfant dans ton lit, là, ça y est. tout le monde se dit que c'est plus possible que ça se passe bien. Là où je nuance mes propos, c'est que c'est ce que je vais dire n'est pas accepté par tout le monde, clairement. Et c'est ma vision des choses. Et je ne dis pas peut-être que dans 10 ans, je dirais, ou plutôt, je dirais que je me suis trompée. Nous, on n'a aucun problème à faire l'amour à côté de notre bébé endormi dans le lit. Voilà. Je sais que ça peut être choquant pour plein de gens, je me suis toujours dit, à l'époque de nos ancêtres dans les cavernes, je pense pas qu'ils allaient dans une autre caverne. Voilà, un bébé endormi, pour moi, il dort super bien. Là où ça commence à changer, clairement aujourd'hui, donc on est toujours en cododo, et nos filles ont bientôt 7 et 3 ans et demi, là, pour moi, ça change un peu la donne. Parce que j'ai vraiment pas du tout envie qu'elles nous surprennent, qu'elles entendent quoi que ce soit, qu'elles aient ce genre d'image. Donc, avec des enfants qui grandissent, on trouve d'autres endroits. En fait, c'est ça. Je pense que la meilleure solution, même pour ceux pour qui c'est impossible d'imaginer faire l'amour à côté d'un bébé qui est dans la pièce ou qui est dans le lit, on trouve d'autres endroits, on devient créatif. Pour ceux qui ont une chambre d'amis, ça peut, une fois que les enfants dorment, ça peut permettre d'aller dans la chambre d'amis, le canapé. Moi, je trouve que c'est absolument pas un frein à avoir une sexualité épanouie. Mais il y en a qui disent, il y a plusieurs personnes qui sont expertes de la petite enfance. Après, aujourd'hui, on peut clairement se dire qu'on est expert un peu de toutes les manières, qui disent que c'est hyper traumatique, que c'est une catastrophe de faire ça. Mais cette même personne que je suivais avant sur les réseaux, et parce que j'étais très alignée avec beaucoup de choses dans la manière de respecter l'enfant, dit aussi qu'on ne peut pas prendre un bain nu avec son enfant, qu'on devrait mettre un maillot, que nos enfants ne peuvent jamais nous voir nus. Moi, ça résonne pas du tout. Nous, on prend régulièrement des bains en famille. Je vois vraiment pas le problème. Pour moi, justement, le fait, moi, j'ai toujours vu ma maman nue et ça a un peu, décomplexé le truc. Donc, je sais pas si ça répond à ta question.
Oui, ça répond. Et ça.
Expérience à toi.
Par rapport à c'est tout à fait, c'est assez similaire en fait. Je trouve qu'il y a toute une histoire autour du lit conjugal, un mythe qui en fait est délétère pour la sexualité, parce que du coup on le limite au lit alors que à la maison il y a plein d'endroits chouettes en fait. Et ça amène même de la créativité, à des nouvelles choses. Donc c'était un de mes conseils en préparation à la naissance, c'était d'aller redécouvrir la maison tant qu'on peut.
Nous, on a découvert ça en vacances. Notre salle de bain ici, dans la maison qu'on loue, elle ne se ferme pas. On n'a pas les clés, il n'y a pas moyen de fermer. Donc, ça, c'est embêtant, mais une location qu'on avait en vacances, la salle de bain se fermait et nos filles jouaient pendant des heures. Elles remarquaient même pas qu'on n'était pas là. Et on était dans la salle de bain avec le truc fermé à clé. Mais au moins, il y avait ce côté sécurité que si elles réalisaient tout à coup qu'elles ne voyaient pas où on était et qu'elles venaient ouvrir la porte, il n'y avait aucune chance qu'elles nous surprennent, quoi. Et donc ça, on s'est dit, dans notre future maison, c'est sûr.
Il y aura des clés.
La salle de bain à clé, idem pour ce qui va être chambre d'amis ou quoi. Parce que, clairement, dans tous les cercles de femmes que j'ai fait, pour beaucoup, les premiers souvenirs en lien avec la sexualité, c'est le fait d'entendre leurs parents et de réaliser. Et c'était des souvenirs pas agréables, quoi. Donc ça, j'ai vraiment pas envie que ça arrive, même si, ça devait arriver, et si, je connais plein de femmes à qui c'est arrivé, si ça devait arriver, j'en ferais pas un gros tabou, quoi. On a déjà parlé de sexualité sans dire des trucs super méga ouverts. Ma fille aînée, elle a posé beaucoup de questions. Donc, très, très jeune, elle a commencé à poser des questions de comment ça fonctionnait. Et puis, je me souviens, donc maintenant, elle va avoir 7 ans, mais je pense, un an et demi, elle m'a dit, mais maman, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible que le pénis rentre dans le vagin. J'étais là. Est-ce que tu veux vraiment la réponse? Est-ce que tu veux vraiment comprendre comment ça fonctionne? Ou est-ce que peut-être que c'est OK pour toi de pas comprendre? Elle m'a dit, non, je veux vraiment comprendre. Et donc, je lui ai expliqué ce que ça venait d'elle. Jamais je vais aller imposer ce genre d'informations. Mais donc, je lui ai expliqué le concept de l'érection, etc. Que c'est comme ça que ça rentrait. Et elle a eu l'air très satisfaite. Et après ça, voilà. Mais donc, si un jour elle devait nous surprendre ou entendre quelque chose et me dire un truc, je lui dirais que le sexe c'est pas du tout sale, que c'est super beau, que c'est un moyen de connexion entre nous incroyable, que c'est vraiment génial, que juste voilà, on est vraiment désolé qu'elle ait vu et qu'elle est pas censée avoir vu ça, mais qu'il y a rien de sale ou de dégradant et que c'est juste hyper chouette.
Oui.
Voilà, je pense que je serai honnête et que je laisserai pas planer de doutes de qu'est-ce que, enfin voilà.
Bah moi, je suis convaincue que, en fait, on transmet beaucoup par ce qu'on n'en dit pas à nos enfants. Et que, du coup, le côté traumatique, c'est peut-être ça aussi. Le fait que nous-mêmes, on soit pas à l'aise avec la sexualité, qu'on ait honte de certaines choses, qu'on pense que c'est mal, parce que dans les faits, c'est un peu ça, hein.
Oui.
Bah, c'est ça qui va venir perturber, mais c'est mon avis personnel, en fait. C'est ça qui va venir créer quelque chose de traumatique, qu'on aperçoit des choses pour la première fois, qu'on ne comprend pas ce que c'est, et qu'on n'a pas l'espace pour en parler après. Parce qu'on ne se sent pas en sécurité, on pense que c'est mal, donc on ne peut pas en parler. De toute façon, mes parents n'en parlent pas, donc moi, je ne peux pas en parler. Donc, il y a toute cette boule de neige qui se crée et qui est ça qui va faire que la mémoire, le souvenir, il va rester ancré de manière pas très positive, en fait.
Oui, tout à fait.
Mais bon, c'est mon avis personnel.
Ouais, mais de la même manière, moi, un de mes grands combats, c'est aussi de protéger les enfants contre le porno. Parce qu'aujourd'hui les chiffres sont atroces, première exposition des enfants c'est 10-11 ans. Et moi j'ai été exposée super jeune et aujourd'hui je comprends les mécanismes qui ont fait que je suis retournée en regarder et que pendant une période de ma vie j'en regardais. Moi j'ai été une consommatrice de porno, quoi. Il y a moins de femmes que d'hommes, mais il y a quand même des femmes, et aujourd'hui je comprends les mécanismes et je sais que c'est parce que j'ai eu cette early exposure, que j'ai été exposée tôt. Et Thérèse Argot, qui est une sexologue belge, qui va en France, dans les lycées, pour parler sexualité et d'amour. Elle est incroyable. Elle a écrit un livre sur le porno, parce qu'elle, elle parle contre le porno depuis 20 ans, je crois. Et elle explique que ce qui se passe quand on regarde du porno, c'est qu'il y a une dissonance. Le porno, ça vient créer une réaction au niveau de nos parties génitales. C'est fait exprès, c'est fait pour ça. C'est fait pour créer de l'excitation, même quand on est enfant. Et donc, moi, je me souviens que c'était ça que j'avais eu. Je me souviens avoir regardé du porno et avoir senti qu'il se passait quelque chose d'agréable dans mon corps. Mais ça vient créer une dissonance parce que, en même temps, on sait que c'est pas normal, que c'est pas la vraie vie, qu'on n'est pas censé voir ça, qu'on le sent énergétiquement, c'est pas clean. On n'est pas en train de regarder un couple qui s'aime, qui fait l'amour. On est en train de regarder des acteurs qui sont payés dans un milieu absolument atroce où il y a plein de drogue et d'alcool et de dépression. Et donc, elle dit que ça vient créer cette dissonance, mais que comme on a quand même ressenti ce plaisir, on a de la curiosité, on a envie de retourner voir, pour voir si ça fait la même chose. Et que ça vient créer une addiction, parce que ça vient créer une addiction à ce shot de dopamine qu'on a quand on regarde ce genre d'image. Et c'est comme ça qu'il y a tellement d'hommes qui se retrouvent addicts. Et l'industrie est basée sur le fait que les futurs utilisateurs tombent soient en contact avec ça le plus tôt possible. Au plus tôt tu tombes en contact avec ça, au plus tu vas te retrouver dans cette boucle et devenir un utilisateur addict à 20 ans, quoi. Et donc tout ça pour dire que moi j'ai commencé à en parler à ma fille, alors évidemment sans jamais rien lui montrer bien sûr, mais en lui disant, si un jour tu tombes sur des images de ce genre, des images où des gens, on dirait que des gens font l'amour, ou en tout cas ils font des trucs que tu connais pas, et que ça, enfin voilà, et que ça te fait quelque chose, viens m'en parler, et on en parle, parce que c'est pas normal, c'est pas ça, le fait de faire l'amour, c'est pas une belle sexualité, c'est juste des images, et donc je me dis que ça peut quand même prévenir, voilà. Mais on verra, mes filles sont encore jeunes et ce sont des filles. Mais je pense que c'est aussi super important de parler de ça aux garçons, parce que souvent, même une amie, tous les contrôles parentaux à la maison, parce qu'il y a des parents qui me disent, ah mais moi c'est bon, c'est impossible qu'ils tombent sur ça, à la maison, tous les ordis, les téléphones, machin, il y a le contrôle parental, c'est impossible qu'ils tombent sur ça. Mais à l'école, il y a plein d'autres enfants qui ont des téléphones, qui ont des grands frères, qui sont en contact avec ça et qui ont peut-être pas le contrôle parental. Et donc, pour moi, ça c'est un cache-misère, quoi. Ça vient en fait continuer à créer ce manque de dialogue et de communication au lieu de dire, bah écoute, voilà, ça existe. Et si t'as envie d'avoir une chouette sexualité, je t'invite à ne pas regarder ça. Par contre, il y a plein de livres aujourd'hui qui expliquent tout, parce que c'est ça le problème, c'est que les ados, quand ils commencent à avoir les hormones qui travaillent, ils se posent plein de questions. Mais bah, il faut avoir une communication sacrément ouverte avec ses parents pour oser venir dire, je sais pas, enfin, comment est-ce qu'on fait une fellation, comment est-ce qu'on fait un cuni, comment pour un jeune garçon, comment est-ce que je donne du plaisir à une femme. S'il y a pas les réponses à ces questions, bah, ils vont les chercher dans le porno. Et malheureusement, les réponses du porno ne sont pas les bonnes réponses. Et donc, ouais, je crois que c'est ça qui manque aussi, quoi. C'est les réponses à ces questions-là. Et aujourd'hui, il y a des livres, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et ça, c'est génial, parce que je pense que ça va changer la donne pour nos enfants.
Et c'est clair. C'est vrai que moi aussi, ça me fait un peu peur et même. Pas que le porno, mais tout le rapport au corps, parce que les jeunes filles, elles commencent à avoir des remarques sur leur corps, je sais plus à quel âge, mais à 7 ans, ouais. Par là, c'est hyper tôt, et c'est vraiment, on n'y peut rien, en fait, parce qu'elles sont en contact, on peut pas les protéger de tout, donc c'est aussi toujours la question de la communication, comment on en parle, comment on crée des espaces où elles se sentent à l'aise pour en parler. Et je trouve que c'est pas facile d'être parent aujourd'hui.
C'est clair.
Alors, j'avais une dernière question. Est-ce que pour un partenaire qui se rend compte que sa femme, elle est déconnectée de son corps, qu'il y a un truc qui va pas après avoir accouché, comment et qu'elle a du mal à reconnaître, comment il pourrait l'accompagner vers un chemin de guérison, ou en tout cas de reconnexion avec son corps?
Oh, ça, c'est pas facile. Pas facile parce qu'en vrai, on peut pas sauver les autres et ça vient toujours. Je pense, hein. Je pense qu'il faut que ça vienne de. Pour qu'il y ait un vrai déclic, il faut que ça vienne de soi. Je crois que ce que lui peut faire, c'est être le plus doux et patient possible, quoi. Et voilà, et voir s'il y a moyen de lui permettre à elle de retrouver contact avec son corps par lui, son toucher, par ses attentions, par la manière dont il est présent et enveloppant. Je crois que c'est la seule chose, mais une chose qu'on n'a pas abordée, mais qui est super importante, c'est vraiment ce truc de trauma de naissance, enfin de trauma d'accouchement, et où souvent, et c'est là où aujourd'hui, le fait que les pères doivent être, allez, sociétalement, doivent obligatoirement être présents à l'accouchement, alors qu'en fait, il y en a quand même plein qui n'ont pas envie, et que c'est assez récent. Et je pense que ce que ça peut venir faire, c'est que parfois, ils sont là, leur femme a envie qu'ils soient là, bah parce que c'est un moment qu'ils ont envie de vivre ensemble, etc. Mais aussi pour les protéger. Mais c'est super dur de protéger quelqu'un en milieu hospitalier. Et donc, ce que j'entends beaucoup de femmes, c'est qu'elles me disent, ben oui, mon mec était là, et il était en fait dissocié, le pauvre. Il y a les médecins qui disent, on doit faire une épisiotomie, parce que le bébé est en détresse, il faut le faire sortir, etc. Et j'ai déjà entendu ce genre d'histoire, des femmes qui hurlent non, elles veulent pas, elles ont dit depuis le départ qu'elles voulaient pas d'épisiotomie, et il y a leur partenaire qui est là témoin d'une expérience qui en fait est une expérience non consentie, donc qui est un viol. Et il y a ça, c'est pas spécialement des épisios, mais avec des touchés vaginaux, avec plein de protocoles, et je crois que eux ils se rendent pas toujours compte de ça. Et donc après ça, évidemment que ça crée une scission. En tant que femme, on n'a pas envie de faire l'amour avec quelqu'un qui a regardé les choses se faire et qui n'a pas été notre protecteur. Et donc là, ça peut être un travail à faire aussi ensemble. Et j'ai déjà rencontré des couples où le partenaire, au bout d'un moment, a réalisé ça et s'est excusé. Et ils ont suivi, voilà, ils ont suivi une thérapie. Elle a peut-être fait de l'EMDR. Enfin, ils ont mis en place des choses pour venir réparer ce manque de confiance et de protection que la femme a pu ressentir.
Oui, c'est vrai qu'on en a pas trop, parlé, mais c'est un vrai sujet parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend des pères beaucoup de choses qu'on n'attendait pas avant. Mais on ne les prépare pas et on ne leur parle pas trop. Du coup, ils se sentent coupables, perdus, largués, ou alors ils se dissocient, comme tu dis. Mais c'est normal, en fait. C'est pas de leur faute, c'est tout à fait normal.
Je voudrais bien savoir qui dans un milieu hospitalier avec ce syndrome de la blouse blanche et on te dit ton bébé est en détresse, qui est capable là? Hein. Surtout qu'en général, ils ont quand même plus peur que nous. Nous, on est dans notre corps, on sent le bébé, etc. Pour la plupart des hommes, enfin moi je sais, tous les papas autour de moi, parce que la plupart de mes amis aujourd'hui ont donné naissance à domicile, ça a été un gros travail de déconstruction, quoi. Ils étaient tous tétanisés à l'idée que leur femme donne naissance à la maison parce que pour eux, la naissance, c'est dangereux. Ils ont peur de perdre leur bébé, ils ont peur de perdre leur femme. Enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs. Et donc, en milieu hospitalier, moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je pensais que j'avais vraiment bien déconstruit ce truc de la blouse blanche. Allez, j'ai choisi de donner naissance, chez moi, sans suivi. J'ai pas fait de suivi médical, etc. J'ai juste fait, pour ma deuxième grossesse, un rendez-vous sage-femme parce que mon mari avait besoin du papier pour son boulot. Il avait besoin du papier pour avoir le congé maternité. Et c'était une sage-femme que je connaissais qui est absolument pas la représentation de la blouse blanche. Genre, elle a des dreads. Vraiment. Elle a des dreads, elle est habillée tout à fait. Elle a un sarouel. Enfin, vraiment, juste pour donner le truc. Pas du tout quelqu'un de supérieur, de hautain, de froid, etc. Et qui porte une blouse blanche. Et donc, je suis allée faire le rendez-vous et j'avais dit à mon mari, je veux pas de Doppler. Je veux pas d'onde. Si on écoute le cœur, c'est avec un pinard, là, ou un stéthoscope, un truc en vrai. Je veux pas d'onde. Et il m'avait dit, ah, ok. Et puis, on arrive, et elle commence, elle est adorable. C'est la sage-femme qui m'a suivie pour ma première grossesse. Et à un moment, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on écoute le cœur? Et alors, elle sort son Doppler, je vois qu'elle, et je dis, oui, oui. Et puis, je me couche sur la table, on écoute le cœur et tout. Puis là, tout se passe bien. Et puis, en sortant, je dis à mon mari, je voulais pas. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Je sais pas. Alors qu'en fait, il y avait le truc en bois, je crois que ça s'appelle un pinard, pour écouter le cœur. À côté, elle l'avait. Il suffisait que je dise, non, j'ai pas envie du Doppler, je veux juste ça. Elle aurait fait aucune remarque, aucun chichi, je le sais. Et donc là, j'ai vraiment réalisé après à quel point il y a quand même une posture qui vient se créer. Et aujourd'hui, je sais que ça a un nom dans nos réactions nerveuses, dans notre système nerveux. En anglais, ça s'appelle fawn. Phone, ça veut dire je sais pas comment ça se traduit en français, mais un peu s'écraser, quoi. Ce truc de la petite fille qui s'écrase. Et c'est une réaction qui nous sert dans plein de cas, hein. Mais c'est ça qui se passe avec le système médical. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'attendre de nos partenaires qui sont déjà, en général, pas super à l'aise avec ça, qui se retrouvent dans un truc avec un médecin qui dit non, mais je vais faire ça parce que sinon, et combien de fois aujourd'hui, les médecins disent encore, vous voulez vraiment que votre bébé meure ou des trucs comme ça? Je veux dire, comment veux-tu rester droit et protéger la personne? Ça, c'est impossible. Et c'est même impossible pour les doulas, honnêtement.
Oui. Ah, moi, je trouve ça... Je serais incapable.
C'est super dur. Donc, donc je crois que là, il y a aussi beaucoup à réparer à ce niveau-là. Et si les femmes vivent cette déconnexion parce qu'elles ont vécu une naissance traumatique, ben, il y a ça à venir... à venir réparer aussi en couple. Mais je pense que ça se répare, hein. Je pense que que tout le monde sortir de ce triangle, le fameux triangle de Cartman, réaliser que oui, sortir de ce truc de victime, bourreau, etc. Même sortir les médecins de ça. Moi maintenant, je vois même plus les médecins comme des bourreaux. Enfin, avant, j'étais très fort dans ce truc de les pauvres femmes qui accouchent sont des pauvres victimes du système médical et les médecins sont les bourreaux. Et en fait, ben non.
Non.
Ils
font le mieux, bah, comme tout le monde, en fait, le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Voilà.
C'est ça, ils sont convaincus que ce qu'ils font, c'est génial et qu'ils sauvent plein de femmes. Enfin, eux, voilà, ils sont pas du tout. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations. Et donc, la plupart des femmes, il y a quand même beaucoup de femmes qui vont en milieu hospitalier en sachant exactement ce qu'elles veulent et ce qu'elles veulent pas. Mais finalement, par rapport à ce qu'elles veulent et ce qu'elles veulent pas, le milieu hospitalier n'est pas le meilleur endroit. Et moi, ce que je trouve terrible, c'est combien de femmes viennent me dire, ah oui, j'ai eu une naissance traumatique, je voulais accoucher à la maison, mais mon mari voulait pas. Et donc, je suis allée à l'hôpital pour lui faire plaisir. Mmh. Et ça, bah, c'est sûr que c'est difficile à...
Ah bah là aussi, il va falloir retravailler après.
Et c'est là aussi où il faut travailler soi-même, réaliser que, ben, que on a aussi choisi ça, finalement. Ok, on avait notre partenaire qui nous disait ça, mais que tout le monde prenne juste sa propre responsabilité et réalise les choix qui ont été faits. Mais c'est pas facile. Et souvent, au départ, on est dans une... Enfin, les femmes que je connais qui étaient là-dedans, elles sont dans une colère énorme.
Oui.
Parce qu'elles sont là, punaise, je savais ce que je voulais, je savais que je voulais donner naissance à domicile. Je savais que je voulais pas ce qui était proposé à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital en me disant, oh, c'est un hôpital, c'est une maternité physio, ils ont une salle avec des cordes et c'est super. Et puis finalement, elles ont vécu ce que, voilà, énormément de femmes vivent à l'hôpital. Et là, elles sont là. Pourquoi? Donc, ce que je trouve triste aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'informations, mais le système change pas trop. Et donc, c'est pas si facile de, c'est pas si facile de suivre son intuition et d'aller à fond. Et voilà, faire des choix comme donner naissance seule chez soi, je réalise aujourd'hui à quel point ça demande, ouais, ça demande une détermination à toute épreuve.
Oui. En même temps, tu vois, parfois on me dit que j'étais courageuse d'accoucher chez moi pour mon deuxième. Et moi, je dis non, mais c'est courageux ceux qui vont avec un projet physio sans péri à l'hôpital. Ça, c'est courageux parce que moi, je pourrais pas en fait.
Non. Pour moi, c'était impossible. C'était.
Oui, moi aussi.
Pareil. Donc moi, je me trouve pas non plus courageuse. Après, ça a été clairement un processus, quoi. C'était pas si facile. Il y a eu beaucoup de questionnements et ça a été vraiment. Mais moi aussi, je trouve ça plus courageux d'aller à l'hôpital avec un projet physio. Un peu dans ce truc de je vais devoir me battre, parce que souvent, c'est ça, quoi.
Oui. Et d'ailleurs, pour revenir sur ton introduction, moi, ma sage-femme qui fait des accouchements à domicile, elle a accepté de me suivre en AVAC, donc c'est possible. C'est pas toutes les sages-femmes qui le font, mais c'est possible.
Ben, en Belgique, apparemment, l'ordre des sages-femmes a signé, elles ont signé un accord tacite entre elles qu'elles n'accompagnaient pas les AVAC. Donc, c'est pas une loi comme, par exemple, les jumeaux, où elles ont absolument interdiction d'accompagner des jumeaux, en tout cas en Belgique. Hein. Dans certains pays, il y a des endroits, quelques endroits en Australie, quelques endroits aux States, où les sages-femmes à domicile peuvent accompagner les jumeaux. Donc, il n'y a pas d'interdiction totale, mais j'avais trouvé aucune sage-femme qui acceptait, quoi.
Ah oui.
Oui, c'est quand tu trouves une perle rare qui croit en ton projet et qui n'a pas peur, ça, c'est...
Ouais, bah oui. Ça fait tout, en fait.
Oui.
Si tu avais un dernier, tu vois, le truc qui devrait rester dans la tête de tous les futurs pères par rapport à cette histoire de sexualité, ce serait quoi le truc qui devrait garder jusqu'à la naissance?
Mais de voir la sexualité comme une exploration, de sortir de ce sexe que la plupart des gens connaissent, ou surtout au bout de plusieurs années de relation, on se connaît bien, on sait sur quel bouton appuyer chez l'autre, et donc on peut avoir un truc qui est sympa et qui est plié en pas si longtemps, de sortir de ça et d'explorer et de découvrir ce que ça fait de faire un cunis à sa femme pendant 35 minutes. de voir ce que ça donne, d'explorer vraiment plein de pratiques et des pratiques de sexe non pénétratif, même si, une fois qu'on a découvert tout ça, le sexe pénétratif peut être complètement incroyable ici. Moi, c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que dans toute cette redécouverte de la sexualité, il y en a plein, surtout dans le mouvement féministe, qui disent, il n'y a que le clitoris qui compte, le sexe pénétratif, on s'en fiche. D'ailleurs, on n'a pas besoin des mecs, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, c'est pas vrai. Ça peut être... Tout est important et incroyable, mais de d'abord aller explorer et de prendre le temps et de voir ce que ça fait à ce niveau-là.
Il y a peut-être une autre chose, tu vois, parce que tu parlais de 35 minutes, ça peut sembler un peu long. Il y a peut-être une autre chose par rapport au temps et par rapport à ce que ça fait. Parce que tu vois, dans ma tête, c'était quelque chose qui allait prendre l'énergie. Ça demande de l'énergie. Alors que quand tu changes le regard et quand tu changes la posture, c'est quelque chose qui te donne de l'énergie et tu as peut-être besoin de moins dormir parce que tu as trouvé ton énergie ailleurs.
Complètement, complètement. Mais j'aime bien ça, c'est aussi une phrase de Thérèse Argot, mais elle dit « Si vous êtes trop fatigué que pour faire l'amour, c'est que vous ne faites pas assez l'amour. » C'est une bonne phrase de fin, je trouve. Et ça, c'est assez génial.
Oui, bah merci beaucoup. C'est vraiment une bonne phrase de fin. je voulais juste terminer peut-être sur tes programmes parce que tu as dit que tu accompagnais des femmes. Peut-être que tu proposes des choses pour les couples aussi. Je ne sais pas si c'est déjà le cas.
Pour les femmes, je propose un programme qui s'appelle Femmes orgasmiques. Là, je suis en train de... Il est réouvert là pendant quelques semaines et ça va commencer le 1er décembre. Ce sont des modules de vidéos préenregistrées avec vraiment, mais genre, tout ce que j'ai appris ces dernières années. C'est une pépite. Et il y a aussi, toutes les deux semaines, un appel en live, questions-réponses. Soit où on peut venir ouvrir son micro, poser ses questions, soit avec un questionnaire anonyme. Comme ça, je sais que pour certaines femmes, c'est impossible de venir à ce genre d'appel et de taper sa question ou de d'ouvrir son micro et de le dire. Et donc c'est ça que j'ai choisi de faire dans cette édition. Mais je vais aussi le relancer en présentiel parce que je suis une énorme fan de présentiel. Moi, c'est vraiment ça qui me nourrit dans tout ça. Ce sont les rencontres et ce qui se passe quand on se voit en vrai. Donc ça c'est le programme Femme Orgasmique. Et dans quelques mois, on va sortir un programme en couple avec mon mari. Parce que je vois que... des espaces pour les femmes, pour ouvrir la parole et pour parler de tout ça, il y en a quand même de plus en plus. Mais pour les hommes, c'est quand même vraiment... soit c'est extrêmement perché. Moi, c'est ça que mon mari n'a pas aimé au départ. C'est que quand moi, j'ai découvert tout ça, je lui disais « Oh, regarde, là, il y a des cercles d'hommes ou il y a une retraite d'hommes ou un truc autour de la sexualité. » C'était 10 fois trop perché pour lui. Il est ouvert, mais il n'a pas envie de faire un cercle de femmes avec un oracle et de faire des... Enfin, voilà, il y a quand même des trucs dans ce milieu-là qui sont parfois trop... Et donc, lui, il a envie de parler aux hommes qui sont comme lui, c'est-à-dire ouverts, qui suivent un peu leur femme dans leur délire, mais qui restent quand même, quand même assez terre à terre. Et il a plein de choses à partager et ça va être juste génial.
Ok, bah super. Bah, je mettrai dès que c'est en ligne, tu me ouais. donneras l'info et je mettrai le lien associé à cet épisode.
Yes. Merci.
Merci à toi.
C'était un plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la Naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de lien avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!